et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Jésus a mis du temps à choisir ses disciples d'ailleurs. Jésus n'est pas rentré dans le ministère dès qu'il est né. Il a grandi, il a été enseigné, il a été formé et il a répondu à l'appel. Jésus est conscient de son appel. Les textes semblent nous dire qu'à 12 ans, il était pleinement conscient qu'il était appelé, qu'il était le Fils de Dieu. Il se retrouve dans le temple et il dit à ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Il a 12 ans. Mais sa mère comprend que quand bien même il est le Fils de Dieu, pour être tout ce qu'il doit être, il doit être formé. C'est pour ça que l'appel ne suffit pas. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire qu'en réalité, être appelé, c'est comme lorsque ton téléphone sonne, on t'appelle. Mais après avoir reçu l'appel, tu dois répondre à l'appel. Et ce que tu dis ou comment tu réponds à l'appel détermine si oui ou non tu seras élu. D'ailleurs, la Bible dit, et c'est l'apôtre, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que si c'est Dieu qui appelle, ce sont les hommes qui mettent à part. Oui. Beaucoup de gens, malheureusement, considèrent qu'ayant reçu l'appel de Dieu, c'est suffisant. Mais si aucun homme ne valide l'appel, vous ne pouvez pas être mis à part. Jésus est conscient de ça à 12 ans et c'est sa mère qui lui dit « rentre à la maison ». Donc Jésus, à 12 ans, quoique étant conscient de l'appel, obéit à sa mère. L'une des difficultés que nous avons dans l'Église, c'est que nous avons des gens qui reçoivent l'appel de Dieu, mais qu'ils ne veulent se soumettre à aucun homme. Là, je veux ouvrir la parenthèse pour dire que Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Quand bien même Dieu et toi, c'est la majorité, Dieu et toi, ça ne suffit pas. Quelles que soient les expériences que tu vis avec Dieu chez toi, tu as besoin d'Ecclésia. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin d'avoir des hommes qui, élevés par Dieu au-dessus de toi, sont capables de te pointer du doigt et de te mettre à part. Il faut qu'il y ait un transfert, pas juste du ciel sur la terre, mais d'un homme à un autre homme. Bref, finalement, Jésus rentre dans le ministère à 30 ans. Encore une fois, c'est sa mère qui le pousse parce que Jésus considère que son heure n'est pas encore venue. Et là, sa mère lui dit non plus de vin. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère ne lui parle plus, elle parle au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Vous devez comprendre que si Jésus a eu besoin de guide, de quelqu'un pour le pousser, je plains les orphelins spirituels. Les gens qui n'ont personne pour les prendre par la main, pour les introniser, pour les introduire dans les choses que Dieu a préparées d'avance les concernant. Jésus prie toute la nuit pour choisir ses disciples, il en choisit 12. Mais plus tard, Luc chapitre 10 verset 1 révèle que Jésus va choisir 70 autres. Deux à deux, il va les envoyer pour guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, prêcher l'évangile. Et le verset 17 dit, ils revinrent. My God. Rien que cette phrase, ce mot m'a béni, ils revinrent. La Bible dit, après avoir vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils vont revenir à Jésus et ils vont lui faire un rapport. Nous avons du mal dans cette génération, dans cette société, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas revenir. Des gens qui ne savent pas rendre des comptes, des gens qui ne savent pas venir faire un rapport. Si tu as été envoyé, tu dois revenir. Et je parle à Ecclésia, je veux vous dire qu'en semaine, vous êtes en mission. Dimanche, jeudi, vous devez revenir. Vous devez revenir rendre des comptes à Dieu. Vous devez revenir dire merci à Dieu. Vous devez revenir glorifier Dieu. Ta présence au culte ne doit pas juste être, en fait, ne doit pas être pour te donner bonne conscience. Ton niveau de maturité fait que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas à l'église d'abord pour les gens. Tu viens parce que tu es conscient que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui te donne la force pour acquérir les richesses. C'est Dieu qui te donne l'intelligence. C'est Dieu qui crée les opportunités. C'est à Dieu que tu dois dire merci pour ce contrat qui est signé. C'est à Dieu que tu dois dire merci pour ce poste, pour cette promotion. C'est à Dieu que tu dois dire merci pour ce mariage, pour cette bénédiction. Bouscule quelqu'un à côté de toi, il faut que tu apprennes à revenir. Regarde, ton voisin ne te parle pas, c'est le bon voisin. Menace-le, dis-lui, il faut que tu apprennes à revenir. Il faut que tu apprennes à revenir rendre des comptes. Il faut que tu apprennes à revenir dire merci. Vous connaissez l'histoire de 10 lépreux. La Bible dit, Jésus rencontre 10 lépreux et il va guérir les 10 par une instruction. Allez vous présenter au sacrificateur. Sur le chemin, les 10 vont être guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui va revenir sur ses pas et qui va dire merci. Et la Bible dit, c'était un Samaritain. C'était un étranger. Écoutez-moi bien, je me rends compte que dans l'église, la plupart des gens qui viennent rendre témoignage chez les évêques, chez les pasteurs, chez les AP, ce sont très souvent des gens qui ne sont pas de la maison. Ce sont très souvent des gens qui sont au loin, qui nous appellent, qui nous écrivent pour dire « Évêque, quand tu as prêché ce message, my God, que j'ai été béni. Après ta prière, j'ai été transformé. » J'étais dans un supermarché il y a quelque temps et alors que je faisais mes courses, ça m'arrive, alors que je faisais mes courses, j'ai rencontré une dame qui m'a dit « Évêque, laissez-moi payer pour vos courses parce que vous avez prêché ce jour-là et ma vie a été transformée. » Écoutez-moi, c'est grave de se rendre compte qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. C'est grave de se rendre compte qu'un évêque n'est méprisé comme devant son peuple. Normalement, vous devriez être les premiers à nous encourager. Vous devriez être les premiers à revenir vers nous et à nous dire vraiment merci révérend Richard, merci révérende Colette, merci révérende Ambroisine, merci révérende Tiffany, merci mon père l'évêque général, merci pour le message, merci pour la prière, merci pour le toucher, merci parce que tu as dit cette parole ce jour-là et la semaine qui a suivi, quelque chose s'est débloqué. Merci parce que normalement, si ce n'est pas toi, ma vie n'aurait pas connu ce mouvement. Est-ce qu'il y a des gens à l'église centrale qui ont encore des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens dans cette maison qui sont capables de dire merci Jésus parce qu'au travers de tes serviteurs tu m'as fait du bien, tu m'as guéri, tu m'as transformé, tu m'as béni. Merci Allah qui t'est parlé, les barras. Merci parce qu'aujourd'hui mon affaire décolle. Je peux faire les affaires parce que j'ai écouté cette prédication. Je peux faire les affaires parce que l'huile a été versée sur ma tête. J'aurais dû mourir prématurément, mais un dimanche comme celui-là, j'ai été au culte. Et alors que Porte des Cieux était en train de chanter, alors que tout d'un coup la louange montait, mes fardeaux sont tombés. Je veux dire merci à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin, mais il doit y avoir une atmosphère de reconnaissance dans ce lieu. Où sont les gens que Dieu a bénis? Où sont les gens que Dieu a guéris? Où sont les gens que Dieu a transformés? Où sont les gens que Dieu a élevés? Où sont les gens que Dieu a modifiés? Est-ce qu'il y a encore dans cette église des hommes et des femmes reconnaissantes? Dieu a sauvé ta famille, Dieu a sauvé ton mari, Dieu a sauvé ta femme, Dieu a sauvé tes enfants. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais si ton voisin n'a pas de témoignage, montre-lui comment quelqu'un qui a un témoignage acclame Dieu. Montre-lui comment quelqu'un qui a un témoignage pousse des cris dans la maison de Dieu. Où sont les gens que Dieu a bénis? Les cultes se succèdent mais ne se ressemblent pas. Avant que je rentre dans mon message ce matin, le Saint-Esprit me demande de dire à quelqu'un, est-ce que tu es reconnaissant pour ce que je t'ai donné? Est-ce que tu es reconnaissant pour la vie, pour l'opportunité, pour le travail, pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour le toit au-dessus de ta tête? Est-ce que tu es reconnaissant pour ton église locale? Est-ce que tu es reconnaissant pour tes évêques, pour ton pasteur? Bon, Malik était pas liatra. J'aimerais que pendant 30 secondes, quelqu'un se tienne sur ses deux pieds et acclame Dieu comme il le mérite. J'aimerais que pendant quelques secondes, quelqu'un célèbre Dieu, quelqu'un bénisse Dieu, quelqu'un rende la gloire à Dieu. Ça va déranger ton voisin, mais c'est pas grave. Ça va déranger ta voisine, mais ce n'est pas grave. J'aimerais que tu mettes tes mains ensemble. J'aimerais que tu pousses un cri dans cette maison. Rends-lui la gloire! Alléluia! Tape dans la main de deux, trois personnes, dis-leur, je suis un miraculeux. Ouais. Écoute, je sais que c'est pas prévu, mais il y a des gens, vous êtes en vie par miracle. Si ce n'était pas la main de Dieu, tu serais mort. Si ce n'était pas la main de Dieu, tu serais morte. Il y a des rescapés. Je dis, tu as traversé les eaux ne t'ont pas submergé. Tu as traversé le feu ne t'a pas consumé. Tu as marché dans la vallée de l'ombre de la mort et tu n'es pas mort. J'aimerais que pendant quelques secondes, les rescapés, les rachetés, les ressuscités poussent un cri dans cette maison. Mais j'aimerais, parce que j'ai vu une fenêtre. Écoutez-moi bien, la reconnaissance, la gratitude appelle la multiplication. Je dis, tu ne peux pas avoir plus de ce dont tu te plains. Tu ne peux pas avoir plus de ce pourquoi tu es ingrat. La Bible dit, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le distribua. Je dis, il n'y a pas de distribution sans action de grâce. Il n'y a pas de multiplication sans action de grâce. Si Dieu t'a déjà fait du bien, j'aimerais que tu l'acclames. Si Dieu t'a déjà donné des victoires, j'aimerais que tu le célèbres. Vas-y, dis-lui merci pour les victoires, dis-lui merci pour le soutien, dis-lui merci pour sa fidélité, dis-lui merci pour sa bonté, dis-lui merci pour son amour, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Je vais essayer de courir. Nous ne pouvons pas être l'église si nous n'avons plus de reconnaissance, de témoignage. Nous ne pouvons pas être l'église si au milieu de nous, il n'y a pas une atmosphère de gratitude. Nous ne pouvons pas être l'église en étant un rassemblement d'hommes et de femmes qui se plaignent. Nous ne pouvons pas être l'église si à chaque fois qu'on te rencontre, les visages sont attachés. Qu'est-ce qu'il y a mon frère? Ça ne va pas au travail. Mais avant qu'on ne prie pour ton travail, est-ce que tu peux lui dire merci parce que tous tes membres fonctionnent? Avant que tu ne lui dises je ne suis pas marié, est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que tu as un travail? Avant que tu dis Seigneur, je n'ai pas d'enfant, est-ce que tu peux quand même lui dire merci pour ton conjoint, merci pour ta partenaire? Je ne sais pas si je vous parle ce matin, mais je suis en train de te dire, avant de demander plus, sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Avant de dire Seigneur, je veux plus, dis-lui merci pour le peu qu'il t'a déjà donné. Je dis merci à Dieu pour la voiture, je dis merci à Dieu pour les vêtements, je dis merci à Dieu pour la classe, je dis merci à Dieu pour l'élévation, je dis merci à Dieu pour les talents, je dis merci à Dieu pour l'intelligence, je dis les disciples donc revinrent. Écoutez, il faut que nos cultes soient parsemés de témoignages. Ne faites pas comme si Dieu ne faisait jamais rien pour vous. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous n'aurez pas la victoire sur le diable si vous ne témoignez jamais. Le diable veut que tu gardes la bouche fermée. À chaque fois que Dieu te fait du bien, tu te tais. Mais dès que tu as le sentiment que Dieu n'agit pas, tu parles. Et les disciples reviennent et ils disent à Jésus, les démons, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ça ressemble à une victoire et c'est une victoire. Et Jésus dit, c'est pas juste les démons les gars. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire que sa chute était rapide. Vous savez l'éclair, vous voyez, c'est fini. L'éclair ne fait pas. Et Jésus révèle donc aux disciples, pendant que vous étiez en mission, Satan tombait. Ma responsabilité n'est donc pas de le faire tomber. Ma responsabilité, c'est de faire ma mission. Et pendant que je fais ma mission, Satan tombe. Donc, tu ne dois pas te focaliser sur le diable. L'Église doit se focaliser sur la mission. Et après, Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir que vous avez, ce n'est pas juste pour chasser les démons. Le pouvoir que vous avez ne fait pas juste tomber Satan, mais ça vous donne le pouvoir de marcher. Les serpents n'arrêtent pas la marche de ceux à qui Jésus a donné le pouvoir. Les scorpions n'arrêtent pas la marche de ceux à qui Jésus a donné le pouvoir. L'Église ne doit pas s'arrêter à cause des serpents. L'Église doit marcher. Donc, qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que les difficultés ne doivent pas arrêter ta marche. Tu as été empuissanté, tu as été rendu potent, rendu puissant pour que malgré les serpents, malgré les scorpions, malgré la puissance de l'ennemi, tu marches. Comment serait ta semaine? Comment serait ton mois? Comment serait ton année? Si tu ne prenais pas les difficultés pour l'absence de Dieu, pour l'absence de pouvoir, si tu considérais que les difficultés sont juste des opportunités pour marcher. J'ai le sentiment que Dieu ne peut pas te dire tu as le pouvoir sans créer l'opportunité pour que ce pouvoir se démontre. Vos Bibles disent que c'est Dieu qui crée l'adversité. Donc Dieu fait passer un serpent devant toi juste pour que tu marches sur lui. Dieu fait passer un scorpion devant toi juste pour que tu marches sur lui. Quelle joie! Et donc les disciples sont en joie. Un peu comme lorsque nous venons, les gens viennent me rendre témoignage, souvent dans mon bureau, les gens n'aiment pas rendre témoignage en public, c'est dommage, mais on vient me dire, évêque, j'ai la victoire, j'ai le contrat, j'ai ceci, j'ai cela, la personne a le sourire aux lèvres, et j'imagine les disciples dans la joie, et puis Jésus s'arrête et il dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans les cieux. Le problème n'est donc pas le fait de se réjouir ou pas, c'est la source de ta joie. Ta joie, écoutez-moi, c'est majeur. Ta joie ne doit pas avoir pour source tes succès. Nous aurons du mal à revenir semaine après semaine si nous ne revenons que lorsque nous avons des victoires. Quand tu n'es pas bien au travail, quand les affaires ne marchent pas, quand on t'a plaqué, parce qu'on plaque, il n'y a pas que toi qu'on plaque, on plaque tout le monde. Quand on t'a plaqué, quand on t'a blessé, quand on t'a trahi, tu n'as pas envie de venir au culte. Tu n'as pas envie de te retrouver avec les frères et les sœurs parce que tu te dis, je vais aller là-bas, ils vont chanter. On va prêcher, ça ne va rien changer à ma situation, je ne pars pas. C'est parce que ta joie dépend de tes victoires. Et Jésus, pour aider les disciples, dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis. Parce que votre joie ne doit pas être limitée ou définie par vos succès. Écoutez-moi, parce que dans la vie, il n'y a pas que de succès, il y a des échecs. Et si tu n'es en joie que quand tu as la victoire, comment tu vas être quand tu seras dans l'épreuve ou que tu vivras l'échec? La Bible dit que Dieu dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, ça veut dire qu'en réalité, il y a un jour du bonheur, il y a un jour du malheur. Mais dans aucun de ces jours, Dieu ne te dit, sois malheureux. Le jour du malheur n'est pas une opportunité pour être malheureux. Au jour du malheur, tu dois réfléchir. Et donc, je dis que c'est un message difficile parce que je réfléchissais ces derniers temps sur plusieurs choses attachées à ma vie, à mon destin, et choses que Dieu m'a confiées. Et parfois, vous savez, on a le sentiment que les choses n'évoluent pas. Il y a ce texte que je n'aime plus. J'aime la Bible. Il ne faut pas lui dire que je n'aime pas sa parole. J'aime la Bible. Mais il y a des textes qui me fatiguent. Si la prophétie tarde, attends-la. Et puis, juste pour te rassurer, il dit, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Vous savez, le texte ne dit pas, si la prophétie tarde, change-la. Si la prophétie tarde, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si la prophétie tarde, mais sauf que la personne qui le dit ne sait pas ce que c'est l'attente. L'attente demande que tu vives dans un temps. Tu es obligé d'attendre parce que le temps, c'est cool. Tu sais que ça devait se faire en 2023. Et là, c'est en train de se... On va vers 2024. Et puis Dieu te dit, wait, attends. Et quand il te le dit et tu dois être en joie. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas bouder. Je ne sers plus. Je ne paie plus ma dîme. Je ne donne plus. Je ne vais plus à l'église. Quand tu fais ça, ça ne change pas Dieu. C'est toi que ça perd ton temps. Et Dieu dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écoutez, ça veut dire qu'en réalité, il doit y avoir dans notre foi et dans nos rassemblements quelque chose qui nous emmène à regarder pas juste à notre situation présente, mais à notre futur. C'est pour ça qu'il y a l'espérance dans le contexte de notre foi. Nous ne pouvons pas vivre une foi sans espérance. La foi est la ferme. La foi est l'assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais il faut croire en ce en quoi tu espères. Now, faith is. Maintenant, la foi est. La ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi c'est pour maintenant. Mais il y a quelque chose au sujet de l'espérance. L'espoir c'est pas maintenant. Tu ne peux pas espérer en ce que tu as déjà. Tu dois croire que tu as ce que tu n'as pas. Et que tu vas avoir. Mais que tu as déjà eu. Et donc Jésus les sort de la joie circonstancielle aux victoires. Et il dit, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les cieux. Qui est déjà allé dans les cieux? Qui a vérifié que son nom est là-bas? La dernière fois que tu es allé au ciel, parce que tu y vas souvent, la dernière fois que tu es allé au ciel, est-ce que tu as vérifié le livre? Est-ce que tu as vérifié ton nom? C'est vraiment bien écrit, il n'y a pas de faute, comme nos administres, bref. Il n'y a pas de faute dans ton nom, il n'y a pas de faute, c'est vraiment ton nom qui est écrit. Ils n'ont pas rajouté un U, là il n'y a pas de U. Ça veut dire que là Dieu dit, écoutez-moi, là Dieu dit, réjouissez-vous de quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne possédez pas, mais auquel vous croyez. Ça là, le nom n'est pas inscrit là-haut pour le mariage. Le nom est inscrit là-haut pour le salut. Ça veut dire que tu es sauvé. Réjouis-toi, écoutez, de manière simple, c'est réjouis-toi parce que tu es sauvé.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.